What's up, Doc?
Et ce matin dans What's Up Doc, on va s'intéresser à une problématique qui concerne pas mal de monde et qui est assez méconnue, en tout cas pas dans le nom, mais dans tous les tenants et les aboutissants. On va parler de l'autisme et nous sommes en ligne avec le professeur Anne Wingens, ou la professeure, je sais pas comment on dit, c'est Anne Wingens, elle est psychiatre infanto-juvénile et responsable du centre de référence pour les troubles du spectre autistique aux cliniques universitaires Saint-Luc. Professeur Wingens, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, professeur. Alors, je le disais, l'autisme, tout le monde en a entendu parler, et il y a même des films, bien sûr, qui ont été tournés sur le sujet. Mais finalement, les tenants et les aboutissants, on n'en connaît pas grand-chose. Alors, rapidement, comment est-ce qu'on pourrait définir l'autisme pour que ce soit compréhensible par le plus grand nombre?
Alors, on peut dire, au jour d'aujourd'hui, on parle de troubles du spectre de l'autisme, hein, ça montre bien l'étendue des profils cliniques dans l'autisme. Alors, c'est un trouble qui apparaît tôt dans la vie de l'enfant et qui concerne la communication et les interactions sociales et par ailleurs aussi des comportements particuliers. Et dans la communication, on a souvent des enfants qui ont des retards dans le développement du langage et qui ne sont pas compensés par des gestes, hein, sont des enfants qui vont avoir du mal à faire des gestes de pointer quand ils sont petits ou montrer ce qu'ils veulent via des gestes. Et ce sont aussi des enfants qui ont des difficultés à interagir avec les autres, ils n'ont pas le mode d'emploi de la relation. Et souvent, ils sont en retrait, ils ont du mal à comprendre les relations sociales, à se mettre à la place de l'autre et à décoder un petit peu les émotions, leurs émotions et les émotions des autres. Hein, donc, ce sont des enfants qui aussi ont du mal à regarder dans les yeux, à donc tout ce qui est la communication non-verbale et la communication en soi et les interactions sociales. Et puis, ils ont certaines particularités comme des intérêts, par exemple, sur certains sujets de façon très spécifique ou bien des sensibilités sensorielles. Notamment, ils sont parfois très sensibles au bruit et puis ils peuvent aussi être très sensibles à tout changement. Et ils peuvent également avoir ce qu'on appelle des stéréotypies, ça veut dire des mouvements répétitifs comme... se balancer ou avoir des mouvements de battement d'ailes ou
d'accord si je comprends bien, c'est vraiment et vous l'évoquiez à l'instant, un large spectre. J'imagine que tous les symptômes ne sont pas là en permanence chez tous les autistes, mais il suffit de l'un ou de l'autre. On y reviendra un petit peu plus tard. Je voulais, pour donner une idée de grandeur peut-être, professeur, ça concerne combien de personnes à la louche, bien sûr, en Belgique et dans le monde, l'autisme? Est-ce que la Belgique, est-ce qu'elle elle rentre dans le moule, je dirais? Est-ce que le pourcentage reste plus ou moins cohérent par rapport au reste du monde? Ou bien est-ce qu'il y a des régions où l'autisme est plus présent qu'ailleurs?
Alors, je pense qu'on a une prévalence qui est assez similaire un petit peu dans tous les pays. Hein. On parle de façon générale de 1%, donc 1% de la population, avec plus de garçons que de filles. Donc, on est entre 3-4 garçons pour une fille.
D'accord.
Les filles ont tendance à être sous-diagnostiquées.
D'accord. Et sous-diagnostiqué, bien sûr. Et quand vous dites 1%, pour donner une échelle de valeur, j'ai envie de dire, on peut se baser sur plus ou moins 110 000, 120 000 personnes en Belgique, c'est bien ça?
Faites le calcul, là.
Oui, mais ça fait quand même...
1% de la population, voilà, oui.
Ça fait quand même du monde, en définitive. Donc, vous disiez plus d'hommes que de femmes pour un rapport quand même de 3 pour 1. Donc, c'est quand même... Est-ce qu'il y a une raison à cela ou bien c'est juste une étude empirique?
4 pour 1, oui, c'est ça.
D'accord.
Parce qu'il y a des facteurs génétiques qui interviennent et donc qui s'intéressent. Voilà.
D'accord.
Ça explique effectivement une prévalence plus importante chez les hommes. Maintenant, on sait que chez les femmes, ça a tendance à être sous-diagnostiqué parce que c'est une présentation qui est un peu différente. Elles ont souvent des intérêts qui sont plus faciles à partager. Ça passe plus souvent inaperçu avec beaucoup d'imitations dans les relations sociales, mais au prix de beaucoup de facettes psychiques.
D'accord. Plus ou moins, vous disiez, ça vient chez l'enfant, on le détecte chez les enfants dès leur plus jeune âge. Ça veut dire quoi? C'est depuis la naissance ou bien il y a un seuil pour l'âge également?
Alors, on parle de petite enfance. Alors, souvent, soit on a des signes dès la naissance, soit on a des signes entre la première et deuxième année de vie, et on a parfois des tableaux de régression. Ça veut dire des enfants qui ont commencé à parler, qui avaient un contact oculaire, et puis qui, entre un an, deux ans, régressent dans leur développement. Et donc, ça, c'est toujours un signe d'appel important. Hein, ils disaient des mots, ils n'en disent plus, ou ils pointaient avec leurs doigts pour demander quelque chose, ils ne le font plus. Donc ça, c'est une autre manière d'entrer.
J'imagine qu'il ne faut pas confondre non plus, ou bien si, hein, vous me reprenez si je me trompe, entre l'autisme proprement dit et des personnes ou des enfants qui s'enferment dans un mutisme pour des raisons psychiatriques ou psychologiques différentes. Il y a un distinguo à faire, ou bien les gens qui s'enferment dans un certain mutisme, c'est toujours l'expression de symptômes autistiques?
Alors, je pense que, comme je l'ai dit au départ, hein, donc il y a un ensemble de signes en termes de communication, d'interaction sociale et de comportement en particulier. Il faut, donc on a des échelles, on fait un bilan multidisciplinaire dans le cadre de l'autisme, et on a des échelles qui nous permettent un petit peu d'évaluer les différents aspects. Et il faut évidemment suffisamment de signes et de façon suffisamment intense pour poser un diagnostic. Et bien entendu, on doit faire des diagnostics différentiels avec des mutismes qui peuvent exister dans l'enfance et évidemment avec des enfants qui ont des retards de langage, des enfants qui ont une surdité, qui vont aussi peuvent développer. Donc c'est des choses qu'il faut vérifier bien entendu dès qu'on dans le cadre d'un retard de langage, bien de sûr. Comportement plus particulier.
Bien, alors là, on va arriver, parce que c'est vrai que le temps court toujours très vite. Il nous reste 3-4 minutes. On va arriver à l'aspect thérapeutique, j'ai envie de dire. Est-ce que il y a une éducation qui se fait pour au niveau des parents pour savoir comment entourer leur enfant autistique, parce que on sait, ou enfant autiste, on sait qu'il n'y a pas d'hospitalisation nécessaire ou indispensable en tout cas, et donc ça prend combien de temps, je dirais, d'éduquer entre guillemets les parents? Ça, c'est le premier volet de ma question. Et ensuite, où en est la médecine au niveau du traitement de l'autisme, si tant est qu'il y en ait un?
Alors, je n'utiliserai pas le mot éduquer, j'utiliserai le mot accompagner, parce que je pense qu'effectivement, les parents, ils connaissent souvent bien leur enfant, et puis ils ont besoin parfois d'aide pour voir comment faire dans telle ou telle situation. Donc, c'est un accompagnement, une réflexion conjointe aussi par rapport à leur enfant. Et je pense que c'est connaître et un peu mieux le fonctionnement de leur enfant, le pourquoi de certaines réactions qui peuvent paraître par moments incompréhensibles, et puis les aider à une meilleure compréhension de leur enfant et comprendre l'enfant avec ses forces et ses faiblesses. Et puis, dès le plus jeune âge, on peut mettre des choses en place qui sont notamment en Belgique la psychomotricité relationnelle, la logopédie, même si ces enfants ne parlent pas, c'est important qu'ils développent une communication. Et donc là, on va insister pour qu'il y ait un suivi logopédique qui leur apprenne éventuellement d'autres moyens de communication. Hein. Ce sont des enfants qui ont de grandes forces au niveau de la mémoire visuelle, donc ils vont pouvoir apprendre avec des images pour faire leurs demandes, comprendre ce qui va se passer. Et puis, bien entendu, les scolariser en enseignement ordinaire quand c'est possible et avec de l'aide nécessaire si c'est possible. Et éventuellement, en enseignement spécialisé. Le souci qu'on a en Belgique, c'est effectivement le manque de place.
Bien sûr. Manque de place et peut-être aussi de personnel formé.
Et d'accompagnement spécifique, et de personnel formé et d'accompagnement spécifique pour ces enfants.
Bien. Alors,
et ces adolescents et ces adultes, puisqu'en fait, ils grandissent aussi.
Bien évidemment. Et est-ce qu'il y a des personnes qui guérissent de l'autisme, professeur?
Alors, je pense qu'on va dire qu'il y a une évolution dans l'autisme suite aux prises en charge les plus précoces possibles. Hein, donc, les enfants vont acquérir toute une série de compétences, bien entendu compétences qui vont varier en fonction de là où l'enfant se trouve dans le spectre de l'autisme, puisque on sait qu'on a d'un côté des enfants qui vont être plus sévèrement atteints et de l'autre, des enfants qui ont un autisme plus léger, qui ont des compétences au niveau du langage et au niveau de l'intelligence. Donc, on va avoir des tableaux cliniques très différents. Et donc, ben, on va essayer un maximum de les stimuler dans certains domaines. Et comme ce sont des jeunes qui n'ont pas le mode d'emploi de la relation, ben, on va leur apprendre certaines interactions, certaines habiletés sociales. Mm-hmm. Mais on sait que ça ne va jamais être spontané. Ça va être effectivement D'accord. des choses qu'ils vont apprendre et pouvoir replacer dans certaines situations. Donc, pour répondre à votre question, il y a une évolution, mais je dirais qu'il se maintient peut-être un noyau autistique avec certaines caractéristiques à l'âge adulte, très certainement, dans les cas où l'évolution est la plus favorable.
Bien,
il y a d'autres enfants qui vont avoir beaucoup plus de mal dans leur évolution, évidemment, s'il y a un déficit cognitif ou des repères de langage importants.
Ben, j'imagine que c'est un petit peu dans toutes les maladies pareil, chacun a son propre moteur pour un petit peu réagir aux choses. En tout cas, professeur Bingens, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychiatre infanto-juvénile, responsable du centre de référence pour les troubles du spectre autistique clinique universitaire à Saint-Luc, aux cliniques universitaires de Saint-Luc. On sait aujourd'hui que c'est la journée mondiale pour l'autisme ou contre l'autisme, c'est comme on voudra. Merci beaucoup.
C'était le 2.
Oui. Oui, ben, c'est pour nous, c'est, voyez, ce que je veux dire, on est raccord puisque notre chronique c'est une fois par semaine. J'espère vous avoir très bientôt de nouveau pour parler de cela peut-être plus en profondeur parce que c'est vrai que ça mérite plus que 10 minutes. Merci de votre gentillesse, prenez bien soin de vous et à très vite professeur, merci beaucoup.
Un tout grand merci à vous, merci de m'avoir invité, bonne journée.
Merci bien, au revoir.